Bonsoir à tous. À la une, un an d'attente, des tests PCR, 1000 km de voyage, mais un duel footballistique rêvé à l'arrivée. Les supporters français à Munich pour le choc France-Allemagne. Premier match des Bleus dans l'Euro. Nous serons dans un instant avec ces adeptes de l'équipe de France et dans le stade Football Arena pour poser les enjeux de cette rencontre. Pas de campagne en or massif en 2012. Nicolas Sarkozy en défense aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris, entendu pour la première fois dans l'affaire Big Malion. Dans ce journal encore, la mort d'Alain Coq, le militant de la fin de vie digne, suicide assisté en Suisse. La fin des droits de douane sur les vins et les avions français aux États-Unis, Washington et Bruxelles signent une trêve. Ça chauffe jusqu'à 35 degrés attendu demain. Beaucoup sont tentés de tomber le masque. Les commerçants sont obligés de sévir, vous l'entendrez. Le vertige des ordinateurs quantiques. L'Allemagne inaugure sa première machine privée capable de calculer bien plus vite que nos équipements actuels. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, on parle féminicide ce soir. Et la question qu'on a envie de poser, c'est pas mais pourquoi on ne fait rien. C'est plutôt oui, des choses sont faites. Oui, on progresse. Oui. La prise de conscience est bien là, mais pourquoi on ne sait toujours pas faire tomber les chiffres de féminicides? Pourquoi les courroies de transmission entre police et justice ne se font pas naturellement? Pourquoi tant d'hommes passent encore entre les mailles du filet? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas au 01 45 24 7000?
Et c'est à 19h20.
France Inter.
Ça fait un an que les supporters rongeaient leurs freins. Un an qu'ils attendaient le coup d'envoi de cet Euro de foot 2020 reporté pour cause de Covid. Cette fois, c'est parti. Premier match de poule de nos Bleus ce soir face à l'Allemagne au Football Arena de Munich. Plus de 2000 Français ont fait le déplacement. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Marion.
Vous êtes aux abords du stade pour Inter et deux heures avant le coup d'envoi, les plus fervents sont déjà là.
Oui, l'ambiance monte, oui, depuis un peu plus d'une heure maintenant. Avec des supporters français qui entrent au compte-gouttes dans le magnifique stade de Munich, règles sanitaires obligent. Comme Maïr et son fils Noah, 14 ans, ils arrivent tout juste d'Alsace.
On est ravis, comme le temps est radieux, on est aussi radieux. Et on a juste envie que ça se termine avec une belle victoire de notre équipe. Avec un but de Benzema pour son retour, ce serait quand même superbe. Ils vont nous régaler ce soir.
J'ai envie d'ambiance, bien sûr, j'ai envie de but. Ça fait du bien après une longue crise sanitaire passée sans pouvoir aller au match. Franchement, ouais, ça fait du bien.
Et pourtant, la crise sanitaire est toujours bien présente ici à Munich, avec l'obligation pour chaque supporter de présenter à l'entrée du stade un test négatif de moins de 24 heures.
One, two, three, right.
Giorgio et Tom, à peine 20 ans chacun, viennent de se faire tester. Et bonne nouvelle, les deux copains pourront assister au match.
Il m'a bien enfoncé dans le nez et on l'a bien senti, mais bon, c'est une bonne chose. On pourra aller au stade.
On vient de Lyon, donc déjà on est venu en voiture parce que les avions c'était quand même pas donné. Et puis en plus après on doit faire les PCR ici.
C'est une mission, mais bon, c'est pour avoir un match de l'Euro, c'est une chance. Donc on va pas se plaindre, on est quand même des privilégiés je pense et on est content d'être là.
Même contrainte évidemment pour les supporters allemands qui seront tout à l'heure juste derrière nous dans le stade de Munich, 4 fois plus nombreux que les Français.
Thibault Lefèvre à Munich avec les moyens techniques de Romain Lucquens. Merci à vous deux. Et à l'intérieur du stade maintenant, il y a Cédric Guillou pour France Inter. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Marion.
Les Bleus débutent 7 euros avec une très belle affiche, mais dans les tribunes, les conditions sanitaires sont drastiques.
Ah oui, la disposition des supporters que l'on vient d'entendre au micro de Thibault sera beaucoup plus organisée que ce que l'on a vu au Stade de France, par exemple, la semaine dernière, lors du match France-Bulgarie, où les 5000 personnes invitées avaient été tassées, hein, on s'en souvient, dans deux tribunes du Stade de France. Aucune distanciation sociale respectée. Et bien là, c'est différent. Des bâches ont en fait été installées dans ce stade de Munich, des bâches qui recouvrent certains sièges, qui se retrouvent donc condamné, donc impossibilité à certains endroits du stade de s'asseoir côte à côte. Certains spectateurs français sont venus en groupe, on vient de l'entendre, mais pendant le match, eh bien, ils seront isolés dans cette aréna de Munich où un peu plus de 14 000 supporters sont attendus.
Côté sportif France-Allemagne, Cédric, c'est du haut niveau hein, pour démarrer cette compétition.
Alors c'est un match important mais pas décisif. C'est la formule Marion employée par Didier Deschamps hier en conférence de presse. Les Français qui partent favoris face à une équipe d'Allemagne qui est en pleine reconstruction. Des Français qui n'ont plus perdu contre les Allemands depuis un quart de finale en Coupe du Monde en 2014. Alors on parlait de public, les spectateurs seront ce soir évidemment derrière la Mannschaft. Les Bleus vont essayer de les calmer le plus vite possible dans ce ce stade de Munich, notamment avec le trio Griezmann, Benzema, Mbappé qui est confirmé à l'instant et qui sera aligné d'entrée. Alors un faux pas ne serait pas rédhibitoire pour une qualification en huitième de finale, mais ça viendrait quand même compliquer le début de parcours de l'équipe de France dans cet Euro de football.
Cédric Guillou qui suit le match pour France Inter. Merci à vous. Les Bleus prévoient aussi de mettre un genou à terre avant le coup d'envoi de 21h par solidarité avec le mouvement Black Lives Matter, ceux devant des gradins clairsemés. On l'a compris, stade comble en revanche à Budapest pour la rencontre en cours entre la Hongrie et le Portugal, tenant du titre 0-0 à la mi-temps.
Première comparution aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire Big Malion.
L'ex-président de la République a-t-il sciemment laissé ses troupes dépasser le plafond des comptes de campagne avant la présidentielle de 2012? C'est la question au centre de ce procès. Nicolas Sarkozy n'est mis en cause que pour financement illégal de campagne, pas pour fausse facture comme ses autres co-accusés. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
L'ex-chef de l'État évidemment dément avoir mené une campagne somptuaire avec une certaine véhémence, hein.
Oui, près de 5 heures d'interrogatoire durant lesquelles Nicolas Sarkozy, tantôt ironise, tantôt vocifère, n'hésitant pas à disséminer quelques piques, ici contre François Hollande, là contre Jean-François Copé. Sa ligne de défense, elle ne bouge pas. Pendant la campagne, lui donne les orientations politiques. La mise en œuvre, ce sont les autres. Tout chef d'État qu'il est à l'époque, il n'a pas à se plonger dans les détails techniques. Je n'ai jamais vu Jacques Chirac ni Édouard Balladur viser une facture, s'étrangle-t-il. Et en cas de problème, son équipe, dit-il, avait tout le loisir de l'en informer. Nicolas Sarkozy n'a donc rien vu, rien su des dépenses qui explosaient, absorbées par ses fonctions de président et de candidat. Tous les jours, il y avait une polémique. Quand c'est pas Bettencourt, c'est Kadhafi. Tout le monde me disait que ça fonctionnait. Je n'avais pas de raison de m'en préoccuper plus que cela. Surtout, l'ancien chef de l'État n'a cessé de le marteler à la barre. Les 20 millions d'euros ne sont pas allés dans sa campagne. Ça se serait vu. On aurait dit « Sarkozy est devenu fou, il donne du caviar au public de ses meetings. C'est une fable », crie-t-il. Et d'accuser Big Malion de s'être, je cite, « goinfré » sur son dos. Monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas sans savoir que pendant l'instruction, une expertise comptable a épluché toutes les factures, l'interrompt la présidente. Qu'importe, l'ancien président n'en démord pas. Dans cette affaire, il y a des gens qui se sont fait rouler dans la farine, conclut-il.
Laurélie Carré, votre tribunal correctionnel de Paris pour France Inter avec les moyens techniques de Georges Thau. Merci à tous les deux. Un pic de chaleur attendu demain en France, jusqu'à 35 degrés dans plusieurs régions. Point complet sur la météo à la fin de ce journal. Avec ces températures, on se découvre, mais il y a toujours le masque qui chauffe et qui gratte, toujours obligatoire en extérieur, presque partout. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à le laisser tomber. Exemple à Aix-les-Bains, en Savoie, Justine Leblon.
Je vois que vous portez pas le masque.
Oui, tout à fait.
Et ça, il l'assume, Gérard.
En extérieur, c'est très difficile, hein, surtout avec un temps pareil, hein, avec 30 degrés. On abandonne un petit peu ce masque qui est un petit peu gênant, je dirais.
Même s'il est encore obligatoire sur la balade au bord du lac du Bourget, personne ne porte le masque. Personne, à l'exception de Nicole.
C'est bien dommage, parce que le port du masque, bah, c'est ce qui va protéger le plus.
Olivia Kilou, des bateaux sur le petit port d'Aix-les-Bains, remarque elle aussi ce relâchement depuis qu'il fait chaud.
Il n'y a plus qu'une personne sur trois, on va dire, qui porte le masque. Du coup, je vois quand même plus de gens en centre-ville qui ont encore les masques.
Dans le centre-ville, les masques sont certes un peu plus visibles, mais les commerçants doivent quand même faire la police. Antoine travaille chez imprimeur rue de Chambéry.
On est obligé de faire de plus en plus de fois le rappel en magasin, hein, de bien le remettre sur le nez notamment.
Et les moins disciplinés, ce ne sont même pas les jeunes, d'après le commerce.
Déjà beaucoup de personnes âgées avec la chaleur qui ont plus de mal à respirer. Et c'est surtout sur ces personnes-là qu'on constate un relâchement.
Un relâchement que la mairie remarque elle aussi. Jean-Marc Vial en charge de la sécurité.
Ça devient de plus en plus compliqué de faire respecter le port du masque. Le virus circule toujours. Il faut être prudent. Continuer tant que l'État ne souhaite pas alléger de façon officielle le port du masque. Rester solidaire et respectueux.
Les amendes à 135 euros ne pleuvent pas pour autant. La police municipale continue à faire preuve de pédagogie.
Justine Leblon, France Bleu, Pays de Savoie. Contre le coronavirus, le masque et le vaccin aussi. Succès inattendu de la piqûre chez les ados. 62 000 inscriptions à des rendez-vous dès l'ouverture selon la plateforme Doctolib. Gros plan sur un succès à lire sur franceinter.fr. Au chapitre Covid, encore cette information pratique pour les candidats au vaccin. La deuxième injection sera possible désormais des 3 semaines après la première pour les injections Pfizer et Moderna et jusqu'à 7 semaines. Façon de ne pas freiner la vaccination malgré l'arrivée des vacances. Et puis on apprend ce soir que les États-Unis vont dépasser les 600 000 morts depuis le début de la pandémie. Il avait fait du droit à mourir son ultime combat. Le militant Alain Coq annonce aujourd'hui son décès dans une lettre ouverte aux politiques et il dénonce leur manque de courage. Le quinquagénaire a bénéficié d'un suicide assisté à Berne, ensuite en Suisse, aboutissement selon lui d'un long et tortueux chemin. Dommage qu'Alain Coq ait dû aller à l'étranger pour réaliser sa volonté, estime Philippe Loéac, délégué général de l'association Droit à mourir dans la dignité.
Encore un Français a dû s'exiler dans un pays étranger pour trouver une solution à sa situation de fin de vie. La loi actuelle française est impuissante parce que la loi Leonetti ne s'applique qu'aux personnes arrivées dans les toutes dernières heures, voire les tout derniers jours de la vie. Et évidemment, c'était pas le cas. Il était en fin de vie, en phase avancée et terminale d'une infection grave et incurable, mais pas dans les tout derniers jours ou les toutes dernières heures. Donc il n'y a rien pour ces personnes qui ont des maladies comme la sienne, ou bien pour les malades atteints de la maladie de Charcot, ou bien ceux atteints de la maladie de Parkinson. Il n'y a rien pour eux, sauf l'exil. Lui a eu la chance de pouvoir y partir en Suisse. Beaucoup ne peuvent pas et donc meurent dans des souffrances insupportables, simplement parce qu'il y a un manque d'ambition politique d'un côté, et puis une tendance ultra-conservatrice de l'autre qui arrive à bloquer tout un débat alors que la majorité des parlementaires est favorable.
Le délégué général de l'association Droit à mourir dans la dignité, joint par Véronique Julia pour France Inter.
Une trêve dans la guerre commerciale entre Union européenne et États-Unis sur les subventions à l'aéronautique.
Washington et Bruxelles se déchiraient sur le sujet depuis 2004, chacun reprochant à l'autre l'argent versé à son avionneur, Boeing pour les États-Unis, Airbus pour l'Europe. L'ex-président des États-Unis, Donald Trump, avait même décidé d'imposer des droits de douane punitifs, notamment sur les vins européens. En réponse, l'Europe avait taxé plus le tabac américain, entre autres. Mais voilà, le président des États-Unis a changé. Et 17 ans et 13 milliards d'euros de sanctions plus tard, l'armistice est signé pour 5 ans. Les présidents américains et français saluent cet accord. Emmanuel Ruffez, la satisfaction est grande aussi chez les acteurs économiques français.
Le conflit n'est pas réglé sur le fond, mais au moins, en suspendant leurs sanctions mutuelles, l'Union européenne et les États-Unis se donnent 5 ans pour parvenir à un accord. Airbus salue cette décision en affirmant que ces sanctions ne faisaient que s'ajouter aux défis déjà nombreux du secteur. Le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Frank Riester, souligne lui la pugnacité de l'Europe et le récent changement d'administration aux États-Unis.
C'est plus qu'une trêve, hein, c'est un véritable armistice. Pendant au moins 5 ans, nous n'aurons pas de guerre commerciale sur cette question du Boeing et l'Airbus, donc sur cette question de l'aéronautique. Et c'est un grand soulagement pour tous les acteurs de ce secteur et aussi les acteurs qui étaient les victimes collatérales de ce contentieux, à commencer par les producteurs de vins et spiritueux.
Car effectivement, avec une surtaxation de 25%, ce sont ces producteurs de vins et spiritueux qui payent un lourd tribut, avec une perte de chiffre d'affaires évaluée à 450 millions d'euros. Nicolas Ozanam, le délégué général de leur fédération.
C'est un impact extrêmement lourd. Il est d'autant plus lourd que pendant cette période, les entreprises frappées par ces sanctions n'ont pas bénéficié de soutien ni au niveau européen, ni au niveau national.
Le gouvernement promet au moins de les aider à reconquérir les parts de marché perdues. Les États-Unis représentent leur premier marché mondial.
Cette entreprise-là fait les frais d'une décision qualifiée d'historique par une avocate des parties civiles, IKEA, condamnée à 1 million d'euros d'amende pour avoir espionné des centaines de salariés entre 2009 et 2012. L'ancien patron, Jean-Louis Bayot, écope lui de 2 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Marion.
Vous étiez ce matin au tribunal correctionnel de Versailles pour l'énoncé du jugement.
Oui, le tribunal sanctionne un système qui était devenu la norme chez IKEA. La société a institutionnalisé une politique généralisée d'enquêtes officieuses et de recherches déloyales et illicites sur ses salariés, écrivent les juges. Vérification d'antécédents de police, enquête sur le train de vie. Des centaines de salariés ont vu leurs données personnelles collectées à leur insu. Une pratique qui s'était généralisée après 2007 pour l'ouverture de chaque nouveau magasin. Un ancien PDG, le directeur financier, l'ex-monsieur sécurité d'IKEA, tous sont condamnés à des peines de prison avec sursis. Le tribunal a toutefois pris en compte les efforts de la société IKEA, qui a notamment créé un comité d'éthique depuis l'affaire. Alors 1 million d'euros d'amende, ce n'est pas beaucoup au regard du chiffre d'affaires d'IKEA, mais pour Adèle Amara, ancien syndicaliste et partie civile au procès, c'est le message qui compte.
C'est vrai que 1 million d'euros pour IKEA, c'est rien du tout. Mais c'est très très rare en France, on va pas se mentir. C'est déjà un début de message très fort en disant aux entreprises, vous pouvez pas faire n'importe quoi. sur vos salariés en France.
Et la société se laisse le temps de la réflexion avant de décider ou non de faire appel.
Corinne Audouin du service police-justice de France Inter, merci. Le complotiste Rémi Daillet, attendu demain à Paris. L'homme soupçonné d'être mêlé à l'enlèvement de la petite Mia a décollé de Singapour aujourd'hui. Il est en vol avec sa femme et ses enfants. Le juge l'attendra à l'arrivée avec son mandat d'arrêt. La mesure risque-t-elle d'attiser la fronde des conducteurs déjà très remontés contre les zones à faible émission? En tout cas, les motos et scooters devront, dès l'an prochain, payer pour stationner à Paris. Annonce faite aujourd'hui par la mairie. Yann Gallic, bonsoir.
Bonsoir.
C'était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo et c'est une façon de gagner de la place en surface.
D'ici à 2026, la mairie de Paris a prévu en effet de supprimer la moitié des places de stationnement en surface, soit près de 60 000 places de parking qui seront transformées en terrasses, pistes cyclables ou espaces végétalisés. Conséquence pour les voitures, le tarif visiteur va augmenter dès le mois d'août. Et pour les deux roues motorisées, le stationnement deviendra payant au début de l'année prochaine. David Béliard est l'adjoint en charge de la transformation de l'espace public à la mairie de Paris.
Aujourd'hui, utiliser un scooter, une moto, eh bien, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de pollution. C'est aussi, il faut le dire, beaucoup d'incivilité, notamment avec du stationnement sur les trottoirs. Et il est plutôt juste que les utilisateurs de deux roues motorisées, eh bien, s'acquittent d'un tarif pour pouvoir occuper l'espace public à Paris.
Alors, pour les deux roues, le prix du stationnement sera moitié moins cher que pour les voitures. Mais c'est déjà trop, selon Jean-Marc Bellotti, le représentant de la Fédération des motards en colère de Paris et sa petite couronne.
On nous dit des choses qui sont complètement hallucinantes, c'est-à-dire, c'est normal, les automobilistes payent, vous devez payer aussi. Mais non, un deux roues motorisées, ce n'est pas une voiture. Tout simplement, la mairie de Paris a envie d'éradiquer le moteur thermique de Paris le plus vite possible, et les deux roues motorisées en font partie. Le problème de la mairie de Paris, c'est qu'ils ne considèrent pas que le deux roues motorisées est une vraie solution au désengorgement urbain.
En revanche, pour les motos et les scooters électriques, le stationnement restera gratuit et la ville de Paris promet de créer 5000 places supplémentaires réservées aux deux roues.
Yann Gallic pour France Inter. Des nouvelles rassurantes après la fuite d'huile signalée en baie de Saint-Brieuc ce matin. Problème sur un bateau qui travaillait sur le chantier du parc éolien. La nappe d'huile s'est diluée selon la préfecture. Pas de risque de pollution terrestre. C'était l'événement politique du jour. Le maire du Havre à l'Élysée pour recevoir l'ordre de grand officier de la Légion d'honneur, puis déjeuner avec toute sa famille à la table du président. C'est bien sûr en tant qu'ancien Premier ministre qu'Édouard Philippe s'est vu remettre la décoration par le chef de l'État. C'est automatique quand on reste à Matignon plus de 2 ans. Bonsoir Karine Becker.
Bonsoir.
C'était l'occasion quand même pour Emmanuel Macron et son ex-chef de gouvernement d'afficher leurs bonnes relations.
Oui, des relations forcément excellentes. D'ailleurs, l'atmosphère de cette cérémonie élyséenne n'a pas seulement été chaleureuse et sympathique. L'un des participants assure que l'ambiance aurait même été familiale. Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qui feraient donc partie de la même famille politique, même s'ils prennent soin depuis maintenant presque un an de ne pas se voir trop souvent. En tout cas, dans la salle des fêtes, des personnalités de tous bords avaient été invitées. À droite, Gérard Larcher, Alain Juppé, Gérald Darmanin. Au centre, Marc Fesneau, sans oublier à gauche, parce que le dépassement était bel et bien présent, Richard Ferrand, Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye ou encore Olivier Véran, pour écouter un propos dithyrambique, celui d'Emmanuel Macron pour son ancien Premier ministre, soulignant sa fidélité, sa loyauté, appréciant sa vigilance et son investissement et allant jusqu'à évoquer la barbe d'Édouard Philippe. Elle est devenue l'image de la crise, lui a glissé le président, de la crise sanitaire évidemment, le thermomètre pour ainsi dire de l'inquiétude et de l'anxiété des Français. Reste bien évidemment la question de l'avenir. L'ancien Premier ministre restera-t-il aux côtés du président? Le sujet n'a été qu'à peine esquissé. Vous avez encore beaucoup à apporter à la République, lui a promis Emmanuel Macron, mais l'histoire ne dit pas encore si ce sera avec ou sans lui.
Karine Becker du service politique de France Inter, merci. Calculer des millions de fois plus vite grâce à l'exploitation des particules infiniment petites. C'est le principe de l'informatique quantique, pas encore complètement au point, mais elle progresse avec aujourd'hui l'inauguration du premier ordinateur quantique privé installé en Allemagne par le géant américain IBM. L'Allemagne a investi plus massivement que la France dans ce secteur. A raison Sophie Bécherel, car l'ordinateur quantique, c'est l'avenir.
Les ordinateurs actuels, si puissants soient-ils, arrivent à leur limite de calcul. Pour résoudre certains problèmes dans la finance, la logistique, la conception de médicaments, il faut parfois les simplifier, sinon le temps de calcul devient déraisonnable. C'est tout l'enjeu de l'ordinateur quantique, faire un bond dans les capacités de calcul, explique Olivier Hess, responsable des activités quantiques chez IBM France.
L'idée, c'est que quand ces machines-là auront le bon niveau de maturité, dans 3-4 ans, les gains en performance seront de l'ordre de 1 million ou 10 millions de fois supérieurs.
Les ordinateurs actuels fonctionnent avec des transistors et des chiffres binaires. Les bits, leur état est soit 0, soit 1. Dans le monde quantique, quantique, on parle de qubits, les quantum bits, qui peuvent avoir plusieurs valeurs à la fois. Les calculs sont faits en somme en parallèle. Pour l'instant, aucune machine n'est pleinement opérationnelle. Il faut encore beaucoup de recherches pour passer de quelques dizaines de qubits à des milliers. L'Allemagne, pour avancer, a choisi de partir de problèmes concrets et d'avoir sa propre machine, Olivier S.
Il y a deux grandes idées, finalement, derrière. La première, c'est tout ce qui est cours formation, parce qu'il faut monter des compétences au quantique, parce que la programmation d'une machine quantique est très différente. Et le deuxième volet, c'est le développement de cas d'usage, c'est-à-dire que tous les grands clients allemands, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le transport, vont pouvoir accéder à ces machines-là et développer des cas d'usage, permettant de dire dans tel ou tel domaine, quels seront les algorithmes, les applications qui demain tireront parti de ces machines quantiques.
Il pourrait encore falloir une à deux décennies pour voir l'informatique quantique s'imposer dans notre quotidien.
Allez, là, il est question d'écran aussi, mais l'ambiance est à la détente. Une première offre de vidéos sur abonnement entièrement dédiée à la cuisine en France. C'est le groupe Media One qui surfe sur notre retour aux casseroles pendant le confinement. Au menu, des recettes, des astuces, des conseils. Vous vous abonnez pour m'inviter à dîner, Fabienne ?
Alors, je vais vous dire à vos risques et périls. Mangez avant de venir, voilà, c'est mon conseil. Merci beaucoup Marion Loua, à demain bien sûr, nous on reste ensemble pour le téléphone, sinon on parle féminicide, pourquoi on ne sait pas faire tomber les chiffres au 01 45 24 7000 juste avant l'œil sur le ciel de demain.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros, automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Élodie Calac, du soleil demain matin.
Oui, beaucoup de soleil, juste un petit peu de grisaille sur les côtes du Languedoc-Roussillon ou sur la Corse, mais ça ne durera pas. Et puis sur la façade ouest, ça deviendra un peu plus nuageux au fil de la matinée avec une ondée possible. Et côté température, pas moins de 13 à 20 degrés au nord et 18 à 22 au sud.
Et sinon, orage et chaleur pour l'après-midi.
Oui, 36 degrés attendus à Bourges, à Montauban, 35 à Toulouse, Grenoble et Clermont-Ferrand, 35 degrés aussi à Paris, 34 à Bordeaux, à Strasbourg, 33 pour Nantes, 32 à Lille, on ira jusqu'à 30 degrés à Caen, à Marseille, 28 à Perpignan et 23 degrés du côté de Saint-Brieuc. Alors sur le sud des Alpes, sur la montagne Corse, ça tournera à l'orage et puis à l'ouest, une dégradation orageuse se mettra également en place avec des averses orageuses et parfois de la grêle de la Bretagne à la Normandie, quelques orages de la Vendée et de la Touraine vers les Pyrénées. Mais attention, puisqu'en soirée, des orages forts gagneront la Nouvelle-Aquitaine, puis le Centre-Val-de-Loire.
Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup, Élodie.